Bonjour tout le monde. Merci beaucoup le réseau Entreprendre pour cette opportunité de partager avec vous mon expérience et d'entendre la vôtre aussi. C'était super inspirant ce qu'on vient d'entendre. Je vis depuis hier des rencontres extraordinaires, donc merci beaucoup. Et je suis très fière d'être sur ma terre natale, sur mon territoire, la Guyane, dont je suis originaire. Donc je vais partager avec vous ma passion. Avant tout, je suis docteur en chimie des substances naturelles. Donc on va parler un petit peu de chimie, pas trop, mais quand même un peu. Et je suis passionnée par les arbres. Je trouve que ce sont des êtres extraordinaires qu'on a certainement négligés dans nos vies d'humains et qu'on a dévalorisés. On les utilise comme un matériau, comme principalement, mais ils ont beaucoup plus que ça. Ils ont une intelligence. Et je les ai découverts durant ma thèse, vraiment par hasard, parce que j'ai un background en chimie. J'ai fait Félix Séboué ici en Guyane, je suis partie faire mes études à Toulouse, chimie, génie chimique, génie des procédés. Et puis je suis revenue en vacances en Guyane et là un chercheur du CNRS m'a proposé d'effectuer une thèse sur les bois de Guyane. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet extraordinaire monde de la forêt, des plantes et de leur savoir. Donc, je suis une entrepreneur pour un monde plus vert. En fait, c'est vraiment ça. Je suis tombée dans l'entrepreneuriat pour contribuer à un monde plus vert. Aujourd'hui, ça fait 11 ans que je suis au Québec, donc basée de partie en postdoc après ma thèse en 2009. Et au Québec, j'ai créé une première société en 2012 qui s'appelle Biostratège. Puis ensuite, j'ai créé une start-up un an après, parce que Biostratège, l'objectif, c'était de donner du service conseil à l'industrie forestière. Je vais vous l'expliquer après. Et je me suis vite rendu compte, un an après, que peut-être qu'il fallait que je démontre par des produits que c'était pas si fou ce que je disais. Et donc, j'ai créé Bioforextra pour biomasse forêt extraction. Et c'est un laboratoire qui a été créé en 2013, dédié aux ingrédients actifs cosmétiques. En 2018, ce laboratoire, je l'ai vendu à une multinationale parce que ma technologie les a intéressés et ils ont voulu l'intégrer pour pouvoir la promouvoir à leur tour. J'ai créé dans le même temps une autre compagnie qui s'appelle Mani Cosmétique, où je suis cofondatrice avec un spa nordique et des hôtels là-bas, qui vise à développer une gamme cosmétique entièrement naturelle et sur la base des extraits que j'avais développés dans Bioforextra. Et je suis aujourd'hui actionnaire également d'une usine d'éco-extraction qui est basée dans le Grand Nord québécois et qui est en cours d'implantation. Donc je contribue avec une expertise, donc poursuivre ma mission sur la chaîne. Mais aujourd'hui, je suis en Guyane. Et j'ai créé Biostratège Guyane en 2019. Mais Biostratège Guyane n'est pas sorti de la terre comme ça, c'est vraiment depuis 2014. Donc dès mes premières années d'entrepreneuriat au Québec, j'ai tout de suite voulu exporter le modèle en Guyane. Donc depuis 2014, je travaille un peu en sous-marin avec des chercheurs locaux, etc. J'ai fait pas mal de lobbying auprès des instances ici. Et pour enfin me servir de la vente de ma première société au Québec pour réinvestir sur mon territoire et contribuer en amenant de l'expertise. Finalement, ma mission d'entrepreneur, c'est de contribuer au développement des régions grâce à l'industrie locale des ingrédients naturels et éco-responsables qui vise à valoriser des biomasses et la création de chaînes de valeur, donc de la ressource au marché. Mes entreprises, généralement, elles ont du service et des produits innovants. L'origine de l'idée, c'est vraiment la thèse, comme je vous ai dit. J'ai découvert le monde des extractibles. Je vais vous expliquer c'est quoi les extractibles. Et j'ai étudié en fait en Guyane les bois amazoniens. Vous savez, nos bois, le wapa, vous en avez entendu parler tous, je suppose, qui sont en Guyane, à cette capacité notamment de résister à l'eau, de ne pas gonfler. On peut le laisser tremper pendant des années, il ne gonflera jamais. J'ai découvert aussi que certains bois ne sont pas du tout attaqués par les termites ou les champignons ici en Guyane. Et bien ça, en fait, dans mes recherches, j'ai découvert que c'était dû à des petites molécules qui se trouvent dans la matrice du bois et qu'on peut facilement extraire avec de l'eau ou de l'éthanol, par exemple. Ce que nos grands-mères faisaient d'ailleurs, parce qu'elles laissaient tremper certains bois dans l'alcool pour certaines purges, etc. Donc aller chercher des extraits actifs qui avaient une efficacité thérapeutique. Et c'est comme ça que j'ai découvert cet extraordinaire monde des arbres et leur capacité à se défendre naturellement de l'environnement, des attaques extérieures. Parce que les arbres n'ont pas cette capacité comme nous à s'abriter sous un toit ou à bouger pour s'abriter. Ils doivent se défendre avec leur propre système naturel. Et ils ont cette capacité de se régénérer et une longévité extraordinaire. Donc j'ai découvert ça et après ma thèse, j'ai été invitée au Québec Pourquoi le Québec? Parce que le Québec, c'est aussi 65% du territoire qui est couvert par la forêt. Ça ressemble beaucoup à la Guyane. Il y a des zones qui sont impraticables, qui sont difficilement accessibles, où il n'y a pas la connexion Internet aussi, vous inquiétez pas. Et que, en fait, finalement, il y a ce besoin, il y a cette forêt et il y a ce besoin de valoriser cette forêt également. Donc, au Québec, je suis allée un petit peu plus loin sur mes recherches et j'ai pu découvrir qu'il y avait dans les biomasses forestières, donc dans les résidus de la transformation du bois que les industriels forestiers jettent finalement ou brûlent à perte certaines fois, il y avait une richesse moléculaire incroyable. Mais pourtant, personne n'en faisait rien. Et donc c'est de ce premier constat entre la forêt boréale, incroyable forêt boréale avec une biodiversité quand même extraordinaire, et la forêt amazonienne, deux populations de forêts totalement différentes, qui ont des défis différents, puisqu'en fait la forêt boréale, elle doit résister à 60 degrés quand même de variation de température entre l'hiver et l'été. Donc il faut quand même être assez costaud pour résister à des bordées de neige et le froid qu'il y a là-bas, ça je peux vous le dire, je peux témoigner. Et en Amazonie, on a cet environnement hyper humide et hyper chaud où là les micro-organismes explosent et que l'arbre a besoin de se défendre en fait contre ces attaques-là. Donc deux forêts avec des peuples incroyable. Et les extractifs jouent ce rôle de défendre ces arbres, ces êtres vivants. Ils sont présents à forte teneur dans les coproduits, donc dans les résidus, comme je l'ai dit, ça c'était un constat. Et on peut les obtenir avec des technologies vertes faciles, puisqu'on peut obtenir les extractifs juste avec une macération, extraction à l'eau ou par exemple à l'alcool. Donc les extractifs du bois, comme je l'ai dit, se trouvent dans ce qu'on appelle, c'est quoi les extractifs? Ils se trouvent dans l'interstice entre la lignine et la cellulose. Donc en fait, quand vous voyez le bois, le bois est poreux, il a des petits trous. Et c'est dans ces petits trous-là que se trouvent les extractifs. Et ce sont des petites molécules, et elles jouent, en fait, c'est elles qui jouent le rôle de différencier les différentes espèces en termes de couleur, d'odeur, etc. On voit bien ici, on a un panel de bois de différentes couleurs, mais c'est dû à différents types d'extractifs. Et leur variabilité est importante parce que dépendamment qu'un arbre va pousser au Québec ou pousser en Amazonie, pousser à l'est ou à l'ouest de la Guyane, dépendamment de la saison et de l'âge de l'arbre, ces extractifs vont être différents. Leur composition, leur teneur va être différente. Donc il y a une variabilité naturelle. Et un extrait, c'est quoi? Ben, un extrait, c'est un mélange complexe de plusieurs extractifs, donc de plusieurs familles de molécules. Et parmi ces molécules-là, il y en a qui sont très très intéressantes, et là je vous ai mis les polyphénols et les terpènes, et qu'on peut en fait utiliser et obtenir uniquement à partir de solvants verts, et qui ont des activités biologiques d'intérêt pour les humains. Notamment, vous en connaissez plein des extractifs, vous connaissez tous l'aspirine. Ben, l'aspirine est obtenue à partir des écorces du sol, notamment. C'est un dérivé de l'écorce du sol. Donc on s'est toujours inspiré des arbres, notamment pour créer les médicaments. Mais vous en connaissez d'autres, les huiles essentielles, les extraits qu'on prend en complément alimentaire, qui sont les fameux antioxydants dont on parle partout. L'ambre, le caoutchouc qui vient de l'EVA. Donc les arbres ont toujours été autour de nous à travers ces extractifs-là. On les connaît, on les utilise déjà. Et il y a un exemple européen d'un extrait qui est incroyable, qui est l'extrait de pin maritime français, qui vient de la biomasse forestière. Et lui, il a 50 ans sur le marché. Cet extrait-là, antioxydant, fait partie de plus de 700 formulations sur le marché international, dans 230 publications scientifiques. Donc ça, c'était le premier constat, finalement, que les extractifs, on les connaît. Ils sont efficaces et on peut les obtenir facilement. Le deuxième constat qui m'a poussé à l'entrepreneuriat, c'est ce fameux besoin du virage vert de l'industrie. Aujourd'hui, on peut plus nier. Le consommateur est averti, il est conscient. Il ne veut plus utiliser des produits qui contiennent des ingrédients nocifs pour lui-même et pour l'environnement. Les industries sont à la recherche d'alternatives vertes. Elles veulent en fait produire des composés qui sont plus éco-responsables et répondre à ce besoin du consommateur qui lui fait la leçon. Notamment également, il y a eu plein de changements réglementaires dans certaines industries pour la toxicité et l'écotoxicité de certains ingrédients, notamment dans les produits chimiques, dans les produits cosmétiques. On entend parler des parabènes beaucoup. Et ben, les parabènes ont été décriés parce qu'on a démontré qu'ils avaient un effet cancérigène. Donc les industries sont à la recherche de nouvelles solutions vertes. Et puis finalement, l'entrepreneuriat et le lancement en entreprise, c'était une opportunité de contribuer. Alors c'est comme ça que j'ai lancé Biofort Extra. C'est parce qu'à un moment donné, j'étais en postdoc, à la fin de mon postdoc, et l'industrie forestière au Québec, qui est basée sur deux utilisations du bois, le matériau bois d'œuvre et la pâte et papier, a connu une crise économique sans précédent. Pourquoi ? Parce que les États-Unis ont fermé le marché d'entrée du bois d'œuvre, et bien sûr, vous savez que le papier s'utilise de moins en moins à cause d'Internet. Et du fait qu'ils étaient que axés sur cette valorisation-là du bois, ben lorsqu'il y a eu cet arrêt de marché, finalement, en fait, ce ralentissement, tout a craché. Or, le Québec vit de son industrie forestière. C'est des familles entières qui dépendent de cette industrie-là. Donc, en 2009-2010, le gouvernement s'est retourné et a dit « Bon, il faut qu'on fasse quelque chose, on perd des emplois, les scieries ferment, les pâtes et papiers ferment, qu'est-ce qu'on fait ?» Il faut qu'on ait une façon de valoriser notre ressource, qui est notre première ressource territoriale. Il faut qu'on ait une diversification et qu'on s'intéresse à autre chose. Et là, j'étais en fin de postdoc et moi, j'étais spécialisée dans les extractibles forestiers. Donc, ils sont venus toquer au groupe de recherche dans lequel je travaillais. Ils ont dit, qu'est-ce qui peut nous faire une étude de marché rapide, d'opportunités sur les extraits, sur ce qu'on peut obtenir de la biomasse forestière? Et on m'a donné le mandat. Bon, donc j'ai pris ce mandat et pendant 3 mois, j'ai lu tout ce que les autochtones, les Amérindiens, Québécois, faisaient des écorces, du bois, etc. J'ai lu également toutes les technologies d'extraction. J'ai essayé de chercher sur toutes les espèces du Québec quels étaient les composés qui étaient voisins de certaines autres molécules qu'on connaît qui ont déjà une utilisation. J'ai aussi recherché les marchés d'intérêt. Et j'ai produit ça et je suis allée voir le gouvernement. Voilà, c'est mon résultat. Ils m'ont dit, bon, on va te payer, tu vas faire des conférences, tu vas aller voir l'industrie forestière, il faut les convaincre d'investir dans ce nouveau marché-là, il y a un potentiel économique. Cependant, vous comprenez bien que l'industrie forestière, monsieur Bûcheron, qui a l'habitude de faire du bois d'œuvre, du 2x4, vous venez lui parler de molécules, on est loin là. Là, il comprend, il dit, oui, bon, tu veux faire du jus avec mes écorces, ok, c'est pas clair, tu vois. Et donc, du coup, il n'avait pas ces compétences et cette capacité de se lancer vraiment dans ce milieu-là. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, vous savez quoi, j'ai fait des conférences partout dans le Québec, je suis allée partout dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. Je vais me lancer. Je vais faire une première preuve de concept. Et c'est comme ça qu'est lancé Biofort Extra. Je me suis dit, la forêt québécoise est riche. Elle a une biodiversité d'intérêt. Il y a des résineux. Ici, on a les palmiers puis les feuillus. Mais là-bas, il y a des conifères et des feuillus. Et ils ont donc cette capacité d'avoir une biodiversité. Et donc, je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Parce que l'industrie forestière actuelle, elle est organisée de ce type-là. On récolte le bois. On le sépare entre le bois d'œuvre et la fibre. Et pendant tout ce process-là, il y a génération de biomasse, donc des copeaux, des sciures, des écorces. À l'intérieur de cette industrie, au départ, quand j'ai commencé mon activité, ils enfouissaient les biomasses qu'ils n'arrivaient pas à utiliser sous terre. Ce qui a créé d'énormes problèmes environnementaux, puisque les nappes phréatiques ont commencé à être gorgées de ces extraits-là. Et donc, ils se sont dit, bon, stop, on arrête tout, il faut arrêter d'enfouir, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va la brûler. On va la brûler pour produire de l'énergie. Fine, c'est génial, c'est mieux que de les enfouir. Sauf que le Québec, son électricité est déjà peu chère et est déjà éco-responsable parce qu'ils ont beaucoup d'eau. Donc, rajouter une industrie éco-responsable sur une industrie éco-responsable, ben, c'est pas si éco-responsable que ça. Parce qu'au final, ça crée plusieurs usines de cogénération un peu partout, sauf qu'elles n'arrivaient pas à vendre leur électricité. Et Hydro-Québec était comme, je te l'achète gratuitement. Tu vois, quelque part, c'était vraiment à bas prix. Donc, c'était pas si lucratif de faire ça. Alors moi, je me suis dit, ce qu'on peut faire, c'est créer, en fait, une filière intégrée juste après l'industrie de première transformation et avant de tout brûler, extraire les principes actifs pour un marché d'intérêt. C'est ça le concept Biofort Extra. Les écorces en particulier a été mon premier focus. Pourquoi? Parce que les écorces étaient le seul matériau qui était destiné à la cogénération et le seul matériau dont ils ne savaient pas quoi faire parce que les copeaux s'étaient recyclés dans les pâtes et papiers et les sciures pouvaient être lamellées collées. Sauf que les écorces, on ne savait pas quoi. Et c'est 2,4 millions de tonnes annuelles d'écorces qui sont produites par l'industrie forestière. Donc, quand on regarde les écorces, c'est très intéressant parce que c'était l'une des parties en chimie qu'on a étudiée au sein du groupe où j'étais. Et on a constaté que c'était la partie de l'arbre qui était la plus riche en extractibles. Et pourtant, c'était elle qui était jetée. Ensuite, on a constaté que c'était la plus riche en polyphénol, qui était une des classes de molécules que je vous ai montrées, qui est connue pour être hyper antioxydante, antimicrobienne, etc. Donc l'intérêt était clairement là. Et en plus de ça, il y a une analogie qui est formidable. L'écorce, c'est la peau de l'arbre. C'est celle qui le protège en fait des agressions extérieures. Et en fouillant un peu sur la biologie de l'écorce et de la façon dont elle est organisée, je me suis rendu compte qu'elle était organisée en couches identiques à la peau de l'homme. Donc je me suis dit, mais c'est parfait, ça fait une très belle analogie, un très beau mimétisme, biomimétisme, et pourquoi ne pas extraire les extractives, les extraits, pour que la peau de l'arbre puisse protéger la peau de l'homme. Et donc, je me suis dit, on va s'adresser à la cosmétique. Donc c'est ce qu'on a fait. On a intégré en fait une filière parallèle, une filière intégrée juste après l'industrie de première transformation. On extrait les molécules bioactives et on les a adressées à la cosmétique. Et pourquoi la cosmétique? Parce que la cosmétique était dans un virage vert, mais aussi parce que le consommateur de la cosmétique est très particulier. Il achète les produits cosmétiques sous l'émotion. C'est un marché qui ne connaît pas vraiment la crise et qui est tout le temps en forte croissance. Et finalement, cette cosmétique, elle doit tout le temps innover. Tout le temps en continu, elle a besoin d'amener de nouveaux produits, des produits qui répondent aux attentes du consommateur. Elle était donc prête à recevoir ce type d'ingrédients-là, ce nouveau type d'ingrédients-là. Et de plus, en fait, je me suis dit, la cosmétique, elle va parler, parce que c'est une industrie qui joue beaucoup sur le marketing et le telling story. Et donc, je vais pouvoir passer mon message d'éco-responsabilité, passer mon message du fait qu'on a gaspillé, en fait, de la ressource forestière depuis des années, en la jetant, parce qu'on a vu le bois de telle façon et pas comme ça. Et finalement, c'est elle qui va commencer à passer mon message, parce qu'elle, elle parle. Les marques cosmétiques font de la promotion, font du marketing sur les ingrédients actifs. Et donc, je fallait créer ce pont entre deux industries qui ne se parlaient pas, la forêt et la cosmétique. Un, parce qu'on allait pouvoir diversifier l'industrie forestière, et de l'autre côté, on avait une cosmétique qui devenait plus naturelle, écologique. Mais développer un ingrédient, ça demande plusieurs étapes. Donc, premièrement, il faut s'intéresser à la matière première. La matière première, comme je vous l'ai dit, elle varie. Donc, on passe beaucoup d'étapes à comprendre la matière première et ensuite à la travailler pour qu'elle soit extractable de façon la plus efficace. Ensuite de ça, on doit objectiver l'extrait. Il est nécessaire de démontrer son efficacité parce qu'une industrie comme une autre n'achètera jamais un extrait, même s'il est naturel, si on n'a pas monté un dossier qui démontre que ça fonctionne aussi bien que du synthétique ou du pétrochimique. Et ensuite de ça, il faut répondre aux réglementaires, donc standardiser. Donc il y a plusieurs étapes qui sont nécessaires et finalement, jusqu'à arriver à la formulation de cet ingrédient. Et en vrai, c'est là que j'ai eu des surprises parce que l'idée est géniale. Mais lorsqu'on commence à développer, et qu'on arrive au moment de la formulation, on dit, voilà, j'ai trouvé l'extrait génial, il est anti-âge, il est antioxydant, etc. J'ai été confrontée à des défis de l'application. Notamment, un des défis, c'était que les extraits de la forêt sont très colorés. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis des années, en cosmétique, vous achetez des crèmes qui sont blanches. Est-ce que vous l'aviez remarqué, ça? On vous a fait croire pendant des années qu'une crème blanche, c'est une crème efficace. Est-ce pas vrai? Les crèmes de Clarins, d'Estée Lauder, etc., depuis des années, elles sont blanches. Donc, quand on arrive avec un ingrédient qui est hyper coloré et puis qui amène une couleur, ça, c'est sûr que ça, tout de suite, on m'a dit, oups, ah, il est super efficace son extrait, mais par contre, la couleur, je ne sais pas comment les clients vont prendre ça. Alors, ça m'a tout de suite allumé, je me suis dit, ah, donc il y a vraiment des codes dans cette industrie cosmétique. Donc, elle veut devenir green, elle veut devenir sustainable, mais finalement, est-ce qu'elle n'a pas elle-même à briser ses propres codes? Et il a fallu donc que je convainque en allant dans des sommets cosmétiques sur l'éco-responsabilité et en les mettant devant leurs propres règles qu'eux-mêmes ont mis en place, en leur disant, aujourd'hui vous voulez être green, il va falloir rajouter de la couleur dans vos petits pots de crème. Et convaincre vos clients qu'effectivement la couleur, ça amène la richesse de la nature. C'est, la nature n'est pas transparente, elle est colorée, elle est pleine de couleurs. Et il va falloir démontrer que oui, vous avez fait croire pendant des années qu'une crème blanche est efficace, mais ce n'est pas si vrai. Voilà, en fait, une crème blanche, c'est purement synthétique, tout simplement. Parce que lorsqu'il y a des extraits naturels, eh bien, il y a de la couleur. Les polyphénols, c'est la couleur de l'arbre, c'est la couleur des plantes. C'est elles qui viennent amener la couleur. Donc, j'ai été activiste pour défendre mon produit et dire, on doit changer, on doit faire un virage vert, ben ça passe par changer certains paradigmes. Et ensuite, il a fallu mettre en production, une fois que quand même j'ai réussi à intéresser, il a fallu mettre en production, de concevoir une chaîne de valeur. Qu'est-ce qu'une chaîne de valeur ? C'est de monter des maillons de la ressource jusqu'au marché. Et là, un autre défi. Parce que quand je dis à M. Joe Loader, qui travaille dans la série XY, ben ça me prend du bois, ça me prend du boulot, des écorces de boulot, est-ce que tu peux m'en amener sur le site ? Ah ben, pas de problème. Là, il ramasse tous les gravillons, tout ce qui va avec, parce que lui n'a pas notion, en fait, des requis que vous avez sur... Donc, j'ai été confrontée à une industrie forestière où il a fallu que je calibre avec eux, que je m'adapte, mais tout en étant très diplomatique, parce qu'au final, je ne pouvais pas non plus rejeter, parce qu'eux, ils sont dans des tonnes, des millions de tonnes. Ils vont pas s'arrêter pour mon besoin de une tonne ou de 100 kilos, là. Tu veux un camion, c'est 35 tonnes de camion qui part. D'accord ? Donc moi, quand j'ai reçu mes premiers camions de 10 tonnes, ben, il y avait un peu de branches, un peu d'écorce, un peu de ceci, un peu de cela. Et là, il a fallu que je leur explique, ah non, ça me prend des écorces pures. Parce que si je n'ai pas des écorces pures, je n'aurai pas mon extrait pur à la fin. On a vu la variabilité, je vous l'ai expliqué. Ça a été tout un défi parce que finalement, j'ai dû m'organiser par moi-même avec une coopérative forestière pour aller, pendant qu'ils scient en fait les grumes, récupérer l'écorce fraîche en tombée de l'écorçage. Et là, j'étais sûre d'avoir une espèce dans mon bac et juste cette espèce-là et juste des écorces. Donc, ça a été tout un défi. Ensuite de ça, il fallait extraire. Donc, l'extraction, il fallait une usine qui était capable de me reproduire le procédé que j'avais fait en laboratoire sur une plateforme industrielle en suivant exactement mes règles. Cependant, au Québec, il n'y avait aucune structure industrielle, pas de plateforme d'extraction. Donc, on pense souvent que certains pays industrialisés ont tout. Ben, vous savez quoi ? Ils sont comme en Guyane. Il n'y a pas de plateforme d'éco-extraction au Québec. Ils ne valorisaient pas leurs ressources naturelles. Et donc, au final, j'ai dû faire un peu comme Ngo Choose, donc trouver une façon éco-responsable de transformer mes écorces avec une coopérative forestière, packager ça en big bag, envoyer par bateau en France pour les extraire. Et tout en travaillant avec le Québec, en leur démontrant que c'était faisable, travaillant avec le gouvernement sur des études de faisabilité pour une première usine d'éco-extraction sur laquelle aujourd'hui je suis actionnaire. Donc voilà, il y a eu des défis parce que c'est un grand territoire, il a fallu que j'aille voir des scieries un peu partout, travailler sur la pureté des écorces, etc. Et mettre en place cette fameuse chaîne de valeur. Voilà la chaîne de valeur et c'est sur ça que j'appuie aussi mon modèle en Guyane. Lorsqu'on part d'une ressource et qu'on veut arriver à un marché d'application, il y a plusieurs maillons qu'il faut mettre en place. Lorsque vous recevez la ressource, elle est brute, d'accord ? Quelle que soit la plante, elle va être brute. Il faut donc la transformer et la préconditionner pour qu'elle soit adaptée à l'extraction. Il y a des métiers pour ça. Il y a des gens, c'est leur métier. Ils font que ça. Séchage, broyage, tamisage des plantes, d'accord ? Et ils font du chiffre d'affaires. Donc ça amène déjà une valeur à la ressource de faire ça. Par la suite, on va faire l'extraction de l'ingrédient actif. En parallèle, il y a les développeurs qui travaillent, comme nous, Bioforextra et Biostratège. On avait cette capacité de développer des actifs avec des dossiers techniques pour divers marchés. Ces développeurs-là travaillent en parallèle avec des producteurs de l'ingrédient. Donc, celui qui va extraire à l'échelle industrielle ce fameux ingrédient-là. Lui, le producteur, doit travailler avec ensuite des distributeurs qui, eux, entrent chez les fabricants qui vont formuler avec votre ingrédient. Les fabricants s'adressent à différents distributeurs. D'accord ? Donc, il y a des multinationales qui ne font que distribuer des ingrédients de tout type, naturels ou pas naturels. Et c'est eux qui ont souvent cette porte d'entrée chez le fabricant, L'Oréal, Clarins, etc. Parce que les L'Oréal, vous comprenez que Bioforextra ou Biostratège, on ne sait pas qui vous êtes. Donc, c'est ce que vous disiez un peu, hein. On ne sait pas qui vous êtes une petite start-up, vous nous faites peur, peut-être que vous n'allez pas suivre les rythmes de production dont on a besoin, est-ce que vous allez être là dans 15 ans ou pas, ils ne savent pas. Donc, ils préfèrent traiter avec des gros distributeurs, donc ils vont s'asseoir chaque année avec des distributeurs, ils vont en sélectionner 5, notamment pour certains de des fabricants que je connais. Et c'est ces distributeurs-là seulement qui peuvent présenter des ingrédients. Donc, moi, il a fallu que je crée des alliances avec des multinationales qui ont rentré mon portefeuille d'ingrédients dans leur catalogue pour présenter à des fabricants de produits finis. Et c'est comme ça qu'on établit une chaîne de valeur en faisant des partenariats. C'est avec une coopérative forestière que j'ai pu faire un partenariat sur la récolte de la matière comme je voulais et son pré-traitement sur site à la coopérative forestière, qui, elle, me faisait le big bag, qui envoyait chez mon fabricant Alban Muller, qui a 40 ans d'expertise dans l'industrie, dans l'extraction du végétal en France, et qui m'a beaucoup appris, parce qu'au final, être à côté de personnes comme ça, ben, on échange, on apprend, on voit comment le procédé se fait. J'ai vu les écueils de passer de l'échelle de labo à l'échelle pilote jusqu'à l'échelle industrielle. Parfois, on est surpris, les effets de masse, c'est incroyable. Ce que moi, j'avais, c'était parfait. Puis, arrivé là-bas, tu as 30% de perte en production, etc., etc. Et donc, ensuite de ça, avoir un distributeur qui, lui, est spécialisé dans la commercialisation d'ingrédients, qui a toute la force et l'impact commercial partout, avec des distributeurs intermédiaires sur différents territoires, ça m'a aussi appris à former, en fait, mes dossiers d'ingrédients en fonction des requis du marché. Et donc voilà, j'ai mis en place une logistique qui partait de Québec, des scieries de Québec, de différentes scieries, jusqu'à une coopérative, jusqu'à Bateau, et puis jusqu'à Alban Muller, et jusqu'à toute la distribution internationale. Et il a fallu faire notre propre marketing, parce que c'est ce que vous disiez aussi, c'était super, c'est super important de travailler son image de marque. C'est ce qui fait que les multinationales, quand même, se sont tout de suite tournées vers nous et nous ont regardées. Nous ont observées pendant les 3 premières années de notre développement, nous ont observées pour voir, mais où est-ce qu'on allait avec ça? C'est très intéressant de voir la marque se développer, etc. Et donc, ils nous suivaient de loin, mais en fait, j'ai appris par la suite, en parlant avec eux, qu'ils nous suivaient depuis un moment et qu'ils attendaient de voir comment on avançait sur ce marché-là et quel segment on intéressait. Et finalement, donc, nous, on s'éclatait, on était en format start-up. Moi, j'avais engagé un designer graphique à l'interne parce que l'image de marque, j'y ai toujours cru. J'avais vraiment envie de montrer que non seulement on était vert, mais on était hot. On avait une image professionnelle, on était capable d'accoter les multinationales, d'arriver avec une image qui leur fait tilt. Et donc, du coup, j'ai développé une marque de commerce immédiate. Donc, j'ai créé les Boréalines. Et le nom Boréaline référait bien sûr à la forêt boréale pour la mettre en avant, parler de l'espace vert du Canada qui est magnifique, mais aussi donc de permettre donc d'accrocher sur une image de marque. Et on arrivait avec le slogan de Tree Skin for Your Skin. Donc, la peau de l'arbre pour la peau de l'homme. Et ça, tout de suite, dans le cœur, c'est venu toucher les gens. Parce qu'ils ont compris tout de suite qu'effectivement, le parallèle entre l'écorce et la peau est drastique. Et ça a permis d'intéresser les gens à l'arbre dans la cosmétique, finalement. Et donc, ça a permis de lancer avec nos partenaires à l'époque, donc mon associé, IFF Lucas Meyer. J'ai donc explosé, j'ai pu aller sur différents marchés. J'ai tourné dans le monde entier pour présenter mes ingrédients, pour présenter mon concept d'économie circulaire. Et on a gagné plusieurs awards, dans le Green Ingredient Award au plus grand salon qui s'appelle la In Cosmetics Global, et aussi en Chine au niveau d'un prix sur la science des ingrédients. Et ça a été pour moi une expérience incroyable d'avoir pu travailler avec ces grands groupes-là, parce que j'ai pu voir le monde, j'ai pu rencontrer différents acteurs majeurs de la cosmétique notamment, et de comprendre toute cette chaîne et de comprendre les attentes, etc., et de comment développer un produit qui respecte les requis du marché. Et ça a été formidable, et c'est ce groupe-là qui m'a racheté, qui a racheté toute la compagnie en octobre 2018, et qui m'a permis, moi, en tant qu'entrepreneur, de faire une super expérience de première start-up. La vente, je vous dis pas, hein, ça n'a pas été super facile, parce que forcément, c'est votre bébé, hein, quand vous créez une entreprise. Vous vous imaginez pas un jour la vendre, etc., puis se départir de votre équipe. Mon équipe, c'est mon cœur, hein. Quand je travaille avec des gens à 100%, je leur fais 100% confiance, et on s'échange tout, je cache rien de ce qui se passe dans l'entreprise, que ça soit finance, mes peurs, mes craintes, mes joies, voilà, ils m'ont vu pleurer, ils m'ont vu super contente. Donc, quand j'ai su que mon équipe allait être aussi intégrée, ça m'a, vous voyez, c'est quand même difficile, mais en même temps, dans la vente, on apprend la négociation. On apprend qu'une entreprise, c'est une entité qui est séparée de soi. D'accord? C'est pas vous. Vous créez de la valeur pour une société. Vous avez contribué avec une solution, mais c'est une entité qui est à part. Et qui permet, en l'intégrant dans une grande plateforme comme ça, elle va vivre forever. En fait, finalement, peut-être que Boréaline, dans 10 ans, je vais encore voir des marques qui ont pris le nom de ma marque parce qu'elles trouvaient ça hot. Et ça, c'est un succès. Ça, c'est un succès d'avoir pu inspirer une part du marché, en fait, un marché à s'intéresser à l'éco-responsabilité, à s'intéresser à un nouveau savoir-faire. Donc aujourd'hui, boréaline est dans plusieurs produits dans le monde entier. Donc l'ingrédient, hein, les ingrédients qu'on a développés à partir d'érables, d'épinettes, de bouleaux, etc. Et il y a même certaines marques qui utilisent carrément le nom de la marque de l'ingrédient pour faire promouvoir leur propre marque. Donc ce qui est vraiment intéressant. Et aujourd'hui, ben, l'aventure continue. Avec, une fois que j'ai revendu, en fait, j'ai pas souhaité continuer à travailler à l'interne dans la corporation, parce que finalement, je veux pas être dans un cadre. Je suis une entrepreneure passionnée. J'adore l'entreprise. Ses défis, ses risques, mais c'est grisant. Ça donne des palpitations d'être dans l'entreprise, et c'est passionnant. Et j'avais envie de continuer à diversifier l'application de ce modèle-là à d'autres marchés, parce que je vous rappelle que la cosmétique est un marché parmi tant d'autres. Les extractibles peuvent s'appliquer à divers marchés. Et donc, j'ai augmenté le concept. Je me suis dit, au lieu de simplement dériver l'écorce pour en extraire les principes actifs pour un marché donné qui est la cosmétique, on pourrait en plus se positionner une usine d'extraction sur un site de cogénération, donc de biomasse énergie, se pluguer sur l'usine de cogénération pour utiliser son électricité, utiliser ses rejets thermiques, faire tourner mon extraction, dériver les écorces, les extraire, et puis toutes les autres plantes qui rentrent, qui vont à la cogénération, les extraire, retourner mes déchets d'extraction à la cogénération pour reproduire de l'énergie que je réutilise. Et c'est ça Nordex que je suis en train de développer en ce moment au Québec, et que je souhaite aussi exporter ce modèle en Guyane. Et Nordex est en fait Biostratège, qui englobe ce genre de concept-là, qui est vraiment Biostratège qui englobe ça. On développe sur différents marchés d'application. Donc Nordex est un marché pour la nutraceutique. Donc Nordex, c'est une usine donc, sur laquelle je travaille avec une ville du nord du Québec et deux corporations gouvernementales qui sont actionnaires, et un promoteur et moi en privé. Donc on est deux privés et trois instances gouvernementales, tous actionnaires dans Nordex. Et Nordex, c'est le concept, c'est le vrai concept d'implantation industrielle de cette usine sur une usine de cogénération. Donc on va se pluguer directement sur cette énergie-là. Nordex, c'est au 49e parallèle, donc on est au cœur de la forêt boréale. L'agriculture, des petits fruits, vous connaissez le bleuet, les canneberges, tout ça, c'est aussi très nordique, c'est riche en antioxydants. Donc c'est ça qui va nourrir Nordex et qui va permettre d'atteindre le marché alimentation animale et nutraceutique. Donc là, ça va permettre de faire la vraie démonstration industrielle de ce concept en économie circulaire. Et puis on s'est allié. Donc aujourd'hui, Biostratège, qui est ma compagnie sur laquelle je continue à travailler au Québec, ben, je développe les ingrédients pour eux, mais maintenant j'ai ma plateforme industrielle sur laquelle je vais pouvoir mettre à l'échelle mes procédés. Et on continue à travailler avec des distributeurs et des fournisseurs de matières premières qui sont nos alliés sur cette chaîne. Ça, c'est la marque qu'on est en train de lancer, des extraits de petits fruits et d'écorces d'épinettes noires avec Nordex. Et maintenant, Biostratège Guyane, c'est encore plus large, parce que maintenant qu'on comprend toute la chaîne et que j'ai pris de l'expertise là, ben ici, j'ai décidé que je vais faire plus gros. Voilà. J'ai décidé de mettre la Guyane plus haut que ça. Donc, je vais diversifier mes intrants. Je vais me baser sur tout ce qu'il y a en Guyane comme filière. La filière bois est une des filières principales. Donc oui, je vais réutiliser les biomasses que produit la filière bois ici. Ici, ce ne sont pas les écorces. Ce sont les sures. Les écorces ne restent pas sur l'arbre parce que l'arbre reste 2 ans dans les parcs agrumes, donc l'écorce s'effrite, vous voyez. Sauf que l'industrie du sillage ici produit beaucoup de sures. Et la nature, elle est super bien faite parce que les bois amazoniens n'ont pas des écorces super épaisses comme le manteau des bois nordiques. Ils n'en ont pas besoin. Par contre, ils mettent tous leurs extractifs dans le duramen, qui est l'intérieur du bois, celui qu'on coupe qui a l'intérêt propriété mécanique, pour protéger leur cœur, qui est souvent affectés par les termites, etc. Donc eux, ils protègent leur cœur avec des extraits sur tout le long des cernes du bois. Magnifique. Et donc, quand on scie c'est ce bois-là, et ça génère beaucoup de sure de ce duramen qui est le plus riche du bois amazonien. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec cette biomasse, puisque vous avez entendu hier la CTG, la filière bois est en train de progresser. Il y a un besoin de construction everywhere ici. Il faut construire parce que la population est jeune, puis la démographie est énorme. Et du coup, on va aussi se baser sur des filières agricoles, parce que l'agriculture se développe beaucoup en Guyane, et je pense que cette filière d'ingrédients naturels va stimuler l'agriculture guyanaise. Notamment, on travaille avec Yana Wasai et d'autres partenaires agricoles ici, qui sont sur le Wasai. L'or pourpre, je crois que j'ai vu dans France Guyane récemment, c'est ça, exactement ça, l'or pourpre. Et puis le Olawara, et puis etc., etc. Je ne vais pas vous citer, mais ici on a, au Québec on a 120 espèces, ici c'est 1200. Donc il y a de quoi jouer, il y a de quoi jouer pendant des années. Et on va s'adresser, en fait, Biostratège Guyane, donc c'est un laboratoire d'éco-extraction qui va être spécialisé dans le développement d'ingrédients naturels et écologiques de Guyane française, qui va en fait développer ces ingrédients avec des dossiers techniques qui pourront s'adresser à divers marchés, cosmétiques, nutraceutiques, industriels. Pour l'instant, on s'intéresse beaucoup à la nutraceutique. Et puis on a deux autres projets qui sont sur les biopesticides pour promouvoir l'agriculture biologique en Guyane. Donc se servir des extraits de plantes pour aider les autres plantes à se développer. D'accord ? Donc, on a un projet comme ça aussi, pour montrer qu'on peut, en fait, appliquer ces ingrédients-là à divers marchés. Donc, la vision, elle est large. Comme je vous ai dit, Biostratège Guyane, on veut intégrer le portefeuille des ingrédients. Donc, on va s'adresser en B2B à des fabricants de produits finis. Mais on a décidé également de faire des concepts de chaîne de valeur locale immédiate. Ça veut dire de s'allier avec un utilisateur local de nos ingrédients. Notamment, je vais vous montrer un projet qui est Nutramazonie, qu'on a promotionné au niveau du concours ILAB et qui a été l'un des seuls projets ultramarins nominés au concours ILAB de BPI France en 2019, et qui, lui, en fait, montre une chaîne de valeur super intéressante. On a décidé d'extraire, en fait, de développer un portefeuille d'ingrédients à partir de matières agricoles guyanaises, comme le wasaï, etc., d'en faire des ingrédients nutraceutiques qu'on va développer avec et qu'on va vendre, en fait, enfin, qu'on va utiliser dans une marque en partenariat avec Dilo pour créer une boisson fonctionnelle pour les sportifs. Donc là, sur le local, on aura l'ensemble des acteurs. Le fournisseur de la ressource, nous, le développeur de l'ingrédient, et finalement, une marque utilisatrice de ces ingrédients qui va s'adresser à un consommateur. Et ça, c'est une vraie preuve de concept économique qui va nous permettre de démontrer que oui, il y a un potentiel avec cette filière en Guyane, et oui, on peut devenir un leader mondial des ingrédients naturels et écologiques. On travaille en collaboration avec l'ensemble des partenaires de recherche, parce que ça fait longtemps que je suis en contact avec eux, et j'ai fait ma thèse au CNRS en Guyane, mais j'ai travaillé aussi avec le CIRAD, etc., l'Université de Guyane. Et donc, on est impliqué avec GDI, on est basé chez GDI, le laboratoire est chez GDI actuellement, et on est l'un des porteurs de projets de la pétale éco-extraction de la ferme expérimentale de Guyane, pour aider à la mise à l'échelle industrielle de nos procédés dans un futur, ici, localement, que je n'ai plus à envoyer mes produits ailleurs pour les faire extraire, mais que je puisse extraire en Guyane, dans une usine qui se basera en Guyane. Et pourquoi pas sur un site de cogénération, puisque j'entends beaucoup parler des projets de biomasse énergie en Guyane. Alors pourquoi ne pas faire des alliances avec une cogénération et utiliser l'énergie éco-responsable pour faire tourner cette usine d'éco-extraction guyanaise? Donc voilà, c'est ça notre mission, et c'est ça que je me suis donné comme mission. On a créé l'entreprise en avril 2019, et j'espère que je vais la voir vivre pour longtemps et qu'elle va se développer. Aujourd'hui, on a un petit labo de 80 mètres carrés, mais on vise d'avoir une plateforme de 400 mètres carrés qui s'installerait à Mancinière et Tonnet-Grande si possible, écotech entièrement, avec tout ce qui est énergie solaire et ou énergie à la biomasse, pourquoi pas, et avoir un laboratoire qui permet à la fois de créer des produits innovants issus des bioressources de la Guyane, mais également qui aura un panel de services pour aider les entrepreneurs locaux avec leurs produits finis ici. Notamment, juste pour vous donner une information, depuis janvier 2019, Biostratège Guyane a sorti un demi-million de devis en service. 500 000 euros, d'accord ? De devis d'entrepreneurs locaux qui ont des super produits, cosmétiques, pour les cheveux, etc., et qui ont ce besoin d'être en conformité, qui ont besoin d'un laboratoire local qui va les aider à mettre leurs produits en conformité pour sortir de l'artisanat, rentrer dans les pharmacies locales, premièrement, pourquoi pas, et puis ensuite exploser sur les Caraïbes, exploser sur le national et sur l'international. Parce qu'on a une vitrine qui est la biodiversité guyanaise qui va résonner, je peux vous dire, à l'international. C'est l'Amazonie. Mais c'est l'Amazonie française, d'accord ? Avec les qualités et les requis européens français. Et ces entrepreneurs-là, ils ont besoin d'une mise en conformité. Donc on va venir avec un panel de services pour leur permettre de se mettre en conformité. Donc d'aider également la chaîne locale à exploser au national et à l'international parce qu'on va atteindre des degrés d'excellence en qualité. Donc c'est ce qu'on aimerait amener avec nos services, c'est de permettre qu'on sorte des produits d'excellence guyanais et qui défient en fait la concurrence ailleurs. On a cette approche d'entreprise 2.0, juste pour finir. Et donc, l'équipe est importante au sein de notre entreprise. On veut être le Tesla de l'industrie, donc briser les codes de l'industrie, les amener ailleurs, les sortir de leur zone de confort, et puis être transparent 100% avec nos consommateurs et avoir un impact social fort. Aujourd'hui, chez Biostratège Beyond, on engage, juste pour votre info, 3 personnes. Donc, je viens juste d'engager. C'est tout naissant. Le laboratoire, on espère pouvoir le lancer en janvier 2020. On est en cours d'achat des équipements. Ils sont en train d'arriver petit à petit. Et puis, voilà, on verra bien l'avenir. Mais on est super motivés, super confiants. C'est deux Guyanaises que j'ai engagées. Une docteure en chimie des substances naturelles qui a le même doctorat que moi, qui est aujourd'hui ma directrice des opérations en Guyane. Une master en formulation qui est une apprentie, qui est la fille de Monsieur Charpentier, qui est avec nous ici présent. C'est un hasard, purement hasard, mais qui est excellente et qui va travailler sur notre pôle formulation au sein du laboratoire. J'espère un jour qu'elle sera la directrice de la formulation. Et puis on a le CNRS qui nous permet d'utiliser certaines ressources humaines en consultant externe, en microbio. Et j'ai un ingénieur que j'ai mis à Paris, qui lui va être au cœur de l'action en France pour aller dans tous les salons et faire connaître Biostratège Guyane partout. Donc voilà, voilà pour la petite histoire. J'espère que je n'ai pas été trop longue, mais merci beaucoup de votre attention.
Magnifique, Mariana, magnifique. Uniquement pour la Biennale.